OK, on va commencer notre 10e leçon dans notre série sur la sanctification biblique. On va regarder ce soir la sanctification pratique et l'assurance du chrétien. La semaine dernière, on avait fait la première partie, donc on va terminer cette leçon-là aujourd'hui. Donc, on va parler d'assurance. On va commencer par les versets d'introduction, 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. « Car pour moi, je vais être immolé. » Et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, on va faire une révision très rapide de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on avait vu que dans les versets, Paul regarde à la fois vers le bas, vers la tombe, il regarde aussi vers le passé, il examine l'ensemble de son ministère, il en parle comme d'un soldat, comme d'un athlète et comme un intendant de Dieu, et il regarde aussi vers le futur, le jour du grand jugement par le Seigneur. Alors, la doctrine, le premier point qu'on avait regardé la semaine dernière, c'est que la doctrine de l'assurance est vraie et scripturaire. On ne reprendra pas tous les versets. Le deuxième point qu'on avait regardé, c'est qu'un croyant peut avoir la foi qui sauve, mais sans connaître l'assurance de son salut. Et, on avait parlé un petit peu on avait fait une série de versets, on avait fait un verset qui parlait que la foi, c'est la racine, et que l'assurance, c'est la fleur. On avait regardé toute une série de versets pour démontrer cette vérité-là. Alors, on a été rendu au troisième point. L'assurance de son salut se doit d'être désirée ardemment par un chrétien. Pour plusieurs raisons. Alors, les raisons qu'il donnait étaient les suivantes. À cause du confort et de la paix présente qu'elle apporte. Elle apporte du confort et de la paix dans notre vie de tous les jours présentement. Et l'autre raison, c'est à cause qu'elle fait du chrétien un ouvrier actif dans le royaume de Dieu. Et la troisième raison, c'est à cause qu'elle rendra le chrétien ferme et résolu. Et la quatrième raison, c'est à cause qu'elle tend à produire les plus sanctifiés des chrétiens. Alors, on était rendu au quatrième point, et on avait arrêté là la semaine dernière. Et le quatrième point, c'était les causes probables du manque d'assurance et pourquoi il est rarement atteint par les chrétiens. Alors, on va les regarder. Alors, cette question-là, c'est vraiment très sérieux et ça devrait nous amener à examiner nos cœurs et nos vies. Alors, le premier point que lui identifie comme étant la cause du manque d'assurance dans la vie du chrétien, c'est une vue défectueuse de la justification. On en parlait dimanche. Ici, on l'a fait une fois, on l'a regardé, on est en train de le faire une deuxième fois. Et dimanche, dans ma sermon de Genèse 15-6, on va revenir encore là-dessus. Pourquoi je veux le redonner en haut? C'est parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas ici le mercredi. Et j'aimerais que ce soit une doctrine qui soit au moins vue et comprise par la majorité de l'Église. C'est tellement important. Alors, lui, il considère qu'une vue défectueuse de la justification, c'est un des problèmes du manque d'assurance dans la vie des chrétiens. Alors, le pasteur Ryle exprime qu'il constate avec douleur qu'il existe une grande confusion dans l'esprit des chrétiens concernant les deux doctrines de la sanctification et de la justification. Ils ont tendance à mal comprendre et à ne pas voir assez clairement que c'est l'œuvre de Christ et non la leur, en tout ou en partie, qui les rend acceptables devant Dieu. Alors, je pense que la meilleure façon de reviser bibliquement qu'est-ce que c'est la doctrine de la justification et de la sanctification, c'est de prendre notre confession de foi 1689, qui a été faite par une équipe de pasteurs, qui a été réfléchie dans la rédaction, dans les versets utilisés. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de prendre parce qu'on peut parler beaucoup, puis on peut des fois, eux, ils ont mis moins de mots, puis ils ont choisi leurs mots. Alors, on va la relire tout simplement, Et s'il y a lieu, on fera des commentaires. Alors, dans au chapitre 11, la Confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui est la Confession de foi auquel cette Église adhère, on a un chapitre qui s'appelle « La justification ». Alors, le premier chapitre se lit comme suit. « Ceux que Dieu a efficacement appelés, il les a aussi gratuitement justifiés. Non en leur infusant la justice, mais en pardonnant leurs péchés et en considérant et recevant leur personne comme juste. Non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux ou qu'ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul. » Remarquez que quand vous lisez ça dans le texte, si jamais il y en a qui téléchargent ça, il y a des petits numéros à côté des affirmations, et ces petits numéros-là font référence à des versets qui sont mentionnés plus bas. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui veut vraiment profiter pleinement d'une étude aurait intérêt à aller prendre sa Bible, ouvrir et de lire les versets. On était rendu, ce n'est pas en leur imputant la foi elle-même pour leur justification, ni leur acte de croire, ou quelque autre obéissance évangélique. Ce qui est imputé, c'est l'obéissance active du Christ à toute la loi, et son obéissance passive dans sa mort, en vue de leur seule et entière justification par la foi. Laquelle foi? Ils ne tiennent pas d'eux-mêmes, c'est le don de Dieu. Alors ici, dans le premier paragraphe, il y a quelque chose, je pense, qui n'est pas nouveau, du moins dans cette Église, depuis quelques années, j'arrête pas de parler d'obéissance passive, d'obéissance active et passive. Alors c'est tellement important de considérer que notre salut repose sur l'œuvre de Christ et que la foi en cela, ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors déjà, quand on comprend ça, on a un grand bout de fête. Deuxième paragraphe, la foi qui reçoit le Christ et sa justice et s'en remet à lui, est le seul moyen d'approprier la justification. Elle ne se trouve cependant pas seule dans la personne justifiée, mais s'accompagne de toutes les autres grâces salutaires. Ce n'est pas une foi morte, mais une foi qui œuvre par l'amour. Troisième paragraphe, par son obéissance et sa mort, le Christ a entièrement payé la dette de tous ceux qui sont justifiés. Par le sacrifice qu'il a fait de lui-même et par son sang versé sur la croix, il a encouru à leur place le châtiment qui leur revenait et il a pleinement satisfait la justice de Dieu en leur faveur. Cependant, pour autant qu'il leur a été donné par le Père et que son obéissance et sa satisfaction ont été reçues à la place des leurs, toutes deux gratuitement et sans qu'ils y soient pour rien, leur justification est due à la pure grâce de Dieu, afin que, par la justification des pécheurs, la rigoureuse justice de Dieu et son abondante grâce puissent toutes deux être glorifiées. Alors, on comprend l'obéissance active, c'est le fait que Christ est venu sur la terre, que durant toute sa vie, il n'a jamais manqué une seule fois d'obéir à la perfection à toute la loi de Dieu. Et L'autre aspect, c'est l'obéissance passive. Souvent les théologiens disent que c'est des mots un petit peu malheureux parce qu'il y a quelque chose d'actif dans... Mais c'est les mots qui ont traditionnellement dans les livres de théologie, c'est le même qu'on parle de ça. L'obéissance passive, c'est le fait que Christ a accepté de recevoir le châtiment, ou du moins l'équivalent de la douleur que nous aurions dû subir en enfer, à notre place. À ce moment-là, la justice de Dieu est satisfaite à tous les niveaux. Pour le croyant, Dieu nous voit comme si on avait obéi à la perfection, et Dieu nous voit comme si nos péchés, qui nous méritaient une punition X, à cause du nombre de péchés qu'on a fait, il y a quelqu'un d'autre qui se prend notre place. Donc, il nous voit comme juste. Alors, à ce moment-là, on arrête d'avoir de la confusion avec la sanctification. Le problème avec la... Quand il y a de la confusion, c'est que le chrétien, il marche, il tombe, il chute, il va pas bien. Puis là, il se dit, ben voyons donc, je dois pas être sauvé, je marche tout croche. Alors, la seule façon de revenir, c'est de pointer les yeux vers Christ, toujours revenir les yeux vers Christ, mais ça ne nous enlève pas la responsabilité de se sanctifier quand même. Il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. Un peu comme il disait au début, c'est des doctrines jumelles. L'une ne va pas sans l'autre. Une personne justifiée va se sanctifier. Et une personne qui se dit justifiée, qui ne se sanctifie pas, il y a des fortes chances qu'elle ne soit pas véritablement justifiée. Le quatrième paragraphe. De toute éternité, Dieu a décrété de justifier tous les élus. Et au temps fixé, Christ est mort pour leurs péchés et il est ressuscité pour leur justification. Néanmoins, ils ne sont pas justifiés personnellement jusqu'à ce que le Saint-Esprit, en temps voulu, leur applique de fait le Christ. Autrement dit, ça vient de l'éternité, mais ça se réalise dans le temps. À quelque part, dans notre vie, il y a une date précise où Dieu a dit, lui ou elle, je lui ouvre les yeux, je lui fais prendre conscience de qui est Christ, de qu'est-ce que Christ a fait pour lui. Alors, c'est ça, du paragraphe 4. Paragraphe 5, Dieu continue de pardonner les péchés de tous ceux qui sont justifiés. Pourquoi il continue de payer puis, et de pardonner? C'est parce que Christ, sur la croix, a tout payé pour tous nos péchés. Sur le péché, on a même le péché originel. Souvent, on oublie ça. Hein? On va confesser nos péchés. Je me souviens d'avoir lu ça dans un livre de théologie à un moment donné. Quelqu'un disait, on confesse souvent nos péchés actuels, mais on confesse rarement notre péché en Adam. Puis il dit, on devrait le faire. Parce qu'on était coupable, là, de celui-là aussi. Alors, des fois, on oublie de le faire, mais on devrait peut-être le faire. Des fois, c'est des choses qu'on est plus ou moins... Alors, Dieu continue de pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés, bien que ces derniers ne puissent jamais déchoir de l'état de justification. Voyez-vous, notre confession de foi, à la différence de d'autres confessions de foi, nous dit qu'on est sauvé, si on est vraiment sauvé, mais tout est dans le mot « si ». Si on est vraiment sauvé, on est sauvé une fois pour toutes. C'est quelque chose de définitif, de final. Dieu nous a, quand Dieu te déclare juste, c'est parce qu'il regarde à l'œuvre de Christ. Christ a accompli la loi à leur place. Christ a subi leur péché à leur place. Donc, ils sont justifiés pour la vie. Alors, quand on entend des chrétiens parler de perte de salut, à quelque part, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la justification. Parce que si tu comprends vraiment, tu ne peux plus dire une chose semblable. Alors, ils peuvent néanmoins, par leur péché, encourir le déplaisir paternel de Dieu. Ici, c'est important de savoir que même si on est justifié, quand on pêche, le déplaisir de Dieu, ça ne fait pas plaisir au Seigneur. Alors, dans cette condition, il ne retrouve généralement la lumière de sa face qu'après s'être humilié. Autrement dit, quand le Seigneur nous dit, quand on pêche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller auprès de lui, il faut confesser notre péché, reconnaître qu'on mériterait une punition pour ça, et reconnaître que Christ l'a payé cette punition pour nous-là. Après avoir confessé leur péché, imploré le pardon de Dieu, et renouvelé leur foi et leur repentance. Alors, tu chutes, mais tu ne restes pas à terre. Tu te relèves, puis tu continues. Sixième paragraphe, la justification des croyants sous l'ancienne alliance était, sous tous ses rapports, la même que celle des croyants sous la nouvelle alliance. Alors ça, à cause de certains systèmes de théologie, il y en a qui y ont prêché, y ont écrit que la foi des saints de l'Ancien Testament n'était pas la même que celle du Nouveau Testament. Alors ça, on a ça dans le dispensationalisme, entre autres. Là. Mais si on croit vraiment... Et l'importance de reprendre chacun de ces... Là, on le fait rapidement, on fait juste le lire. Mais actuellement, il y a le livre de M. Sam Waldron qui a pris tous les articles et qui les a développés sous forme un peu de sermon et en expliquant beaucoup plus en détail chacune de ces choses-là. Souvent, on les lit... Mais jusqu'à quel point on comprend, c'est une autre affaire. Puis il y a un autre pasteur que j'ai découvert sur le web, si jamais ça vous intéresse, qui est un réformé baptiste américain aussi, qui est en train de faire la même chose que M. Sam Waldron, mais avec des angles nouveaux. Alors, éventuellement, je veux prendre les deux, les mettre ensemble, Parce que la confession de foi, là, c'est un petit document. Mais il y a du steak là-dedans. C'est très riche. Alors, si on veut, c'est bien beau dire qu'on adhère, dire qu'on a la foi, là, que pour nous, c'est notre confession de foi. Ça dit « je confesse que je crois cela ». Ben encore faut-il qu'on comprenne que ce qui est écrit dedans. Et lui, il disait que dans le fond, le problème, c'était qu'on comprenait mal l'un, ou qu'on comprenait mal l'autre, et que souvent on confondait l'un avec l'autre. Alors, notre confession de foi donne encore beaucoup d'informations dans le chapitre 13 sur la sanctification. Alors, on va lire qu'est-ce que notre confession de foi 1689 dit sur la sanctification. Alors, ça dit, paragraphe 1, « Ceux qui sont unis au Christ, qui sont effectivement appelés et régénérés, ayant un cœur nouveau et un esprit nouveau, créés en eux en vertu de la mort et de la résurrection du Christ, sont en plus réellement et personnellement sanctifiés en vertu de la même puissance par sa parole et son esprit qui habite en eux. » T'es en train de nous dire qu'après qu'on est sauvé, la parole de Dieu va faire un effet en nous pour nous transformer, pour nous apprendre des choses, pour nous apprendre à nous éloigner du péché, pour nous apprendre c'est quoi la justice et comment la pratiquer. Et il dit que c'est qui fait ça? C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui habite en nous. Le règne du péché est détruit et leurs nombreuses passions sont progressivement affaiblies et mortifiées. Quand on a parlé de la doctrine de la mortification, autrement dit, Dieu nous prend à un point où on est rempli de péché jusqu'aux oreilles, puis tranquillement, il nous corrige, il nous enlève des péchés, et ça se fait d'une façon graduelle. On n'est pas parfait du jour au lendemain. Affaibli et mortifié, alors qu'eux-mêmes sont de plus en plus vivifiés et affermis dans toutes les grâces salutaires en vue de la pratique de la vraie sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, il y a toute une série de versets. Deuxième paragraphe sur la sanctification, ça dit « Cette sanctification est opérante dans l'homme tout entier. » Autrement dit, c'est dans notre esprit, dans notre langage, dans notre comportement, dans tous les aspects de notre personne. Le Seigneur ne nous laisse pas la liberté de choisir quel aspect on veut changer. Lui, il voit la job globalement, puis il la fait globalement aussi. Et c'est une bonne chose aussi. Bien qu'elle demeure, il dit, cette sanctification est opérante dans l'homme tout entier, bien qu'elle demeure imparfaite durant cette vie. Voyez-vous, on avait parlé de certains théologiens, Sinless Perfection. Ils ont écrit des livres là-dessus. Ils ont fait circuler ça un petit peu partout aux États-Unis. Il y a encore des gens qui croient ça, là. Alors, quelque part, si tu crois que tu peux devenir parfait et que tu ne pêches plus sur la terre, là, à quelque part, tu es aveuglé, mais pas à peu près. C'est pas, vraiment pas à peu près. Alors, comment ça se fait que ces choses-là peuvent trouver racine dans le cœur des gens? C'est parce que c'est notre vieille nature qui cherche toujours à vouloir faire les choses par elle-même. C'est comme si notre salut dépendait de notre comportement et de nos œuvres. Alors ça, il faut se méfier de ça comme la peste, comme on dit. Alors, dans tous les aspects de cette vie, demeurent des restes de corruption. On est-tu au courant de ça ou si on n'est pas au courant? Chaque jour, nous en montre des aspects qui donnent lieu à une guerre continuelle et implacable. La chair, ancienne passion, s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Troisième paragraphe. Dans cette guerre, bien que la corruption rémanente puisse pour un temps prévaloir. Voyez-vous, rémanente, ça veut dire qu'il peut revenir. Autrement dit, quelqu'un peut faire un péché puis il retombe dedans. C'est rémanent, ça revient. Il dit, bien que la corruption rémanente puisse pour un temps prévaloir, néanmoins, en raison des ressources permanentes qui lui proviennent de l'Esprit sanctifiant du Christ, l'être régénéré l'emporte. Autrement dit, on est en guerre, mais ce n'est pas à cause qu'on a une défaite qu'on perd la guerre. Mm-hmm. On continue et le Seigneur va nous fortifier à mesure. Ainsi, les saints croissent en grâce et perfectionnement. Et perfectionnent leur sainteté dans la crainte de Dieu. Ils désirent ardemment vivre une vie céleste dans l'obéissance évangélique à tous les commandements que le Christ, le chef et le roi de l'Église, leur a prescrits dans sa parole. Et là, je termine en disant, tous les chrétiens devraient maîtriser parfaitement ces notions. Le problème, c'est que si on prend l'Église moyenne et qu'on, disons qu'on dirait, on les fait venir chacun en avant, puis on les questionne, explique-moi qu'est-ce que c'est la justification. J'aurais peur que ça ferait pépique. J'aurais peur que ce soit pépique chez certains, peut-être chez d'autres. Maîtriser ça parce que ça implique notre vie de tous les jours, notre contentement, notre façon de voir la vie. Et on élimine des erreurs théologiques importantes qui nous rendent malheureux. Parce qu'on en voit des gens qui croient à la perte du salut et ils sont malheureux. Parce qu'ils ne comprennent pas que leurs péchés ont été payés par Christ et que la loi est accomplie à la perfection. Et c'est ça. C'est par ça que Dieu peut te déclarer juste. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu peux vivre, « Ah, OK, mais le Seigneur a tout payé, il a tout fait pour moi, maintenant, moi, je vais me la payer, je vais me la couler douce, je vais pécher à mon goût, tout est payé. » Ça ne marche pas de même. Le Seigneur nous dit que si on est justifié, l'Esprit et la parole vont nous purifier, sinon, peut-être que c'est un faux salut. Bon. On a vu la première raison pour laquelle il dit que les chrétiens manquent d'assurance. Et ça, je peux vous dire une chose personnellement. Ça fait quand même 38 ans que je suis chrétien, et j'en ai entendu des vertes puis des pommures, puis par des chrétiens, des fois, qui ont 20, 25 ans de vie chrétienne, qui disent, « Sais-tu, je ne suis même pas sûr que je suis sauvé. » À quelque part, ça s'applique à ces personnes-là. Si tu doutes de ton salut, c'est parce que quelque part, tu ne comprends pas la justification, puis tu ne comprends pas la sanctification non plus. Et la deuxième raison pour laquelle lui identifie comme étant une des raisons pour laquelle on manque d'assurance dans notre foi, c'est ce que lui appelle de la paresse et de la négligence dans la croissance, dans la grâce. Le pasteur Ryle suspecte que beaucoup de croyants sont assis sur leur laurier et ont des compréhensions et des pratiques non scripturaires dans cette doctrine de la croissance dans la grâce. Les saintes Écritures abondent en commandement de croître, d'abonder de plus en plus, d'aimer de plus en plus, d'obéir de plus en plus et d'ajouter constamment à notre foi. C'est le tellement beau passage de 2 Pierre. Moi, ce passage-là, je l'aime beaucoup parce qu'il ne peut pas te laisser dans l'illusion que tu es sauvé et que tu n'as rien à faire. Le Seigneur te commande qu'il faut que tu croisses. S'il n'y a pas de croissance, c'est parce que quelque part, tu n'utilises pas les moyens de grâce que le Seigneur a mis tellement généreusement à ta disposition et que tu les négliges et que tu les utilises peu ou pas. Alors, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été donnés les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. » Et le verset 5, c'est là qu'on voit que le Seigneur ne nous dit pas de rester. On ne peut pas rester. C'est comme une fleur. Si tu plantes une graine en terre, si elle est vivante, elle va pousser, elle va grandir. C'est la même chose pour la foi. Ainsi, y apportant tout votre zèle. Je vous avais expliqué, à un moment donné, dans le grec, c'est « faites les efforts de la même nature qu'un athlète fait pour gagner un prix ». Et si on se donne la peine d'examiner ce que les athlètes sont prêts à faire pour gagner, je ne sais pas, le plongeon, la nage, n'importe quoi, là, c'est incroyable. Ils se lèvent à 4 heures du matin, ils font attention à leur alimentation, ils se battent beaucoup, là. Et la Bible nous dit que c'est de cette façon-là qu'on devrait chercher à croître et à grandir. Des fois, moi, si j'examine ma propre vie, je me demande si c'est ça que je fais. Je fais tout ça vraiment, là. Mais c'est ça que Dieu nous demande de faire. Y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu et à la vertu la science. Vois-tu, quand tu n'as qu'un, tu t'arrêtes pas là, tu continues. La science et à la science la tempérance et à la tempérance la patience et à la patience la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en... Voyez-vous le « si » conditionnel. Si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Vocation, ici, dans le contexte, c'est votre appel. Vous avez reçu un appel divin. Vocation, c'est souvent dans notre vie de tous les jours, des fois, une vocation, on dit « Oh, lui, il a la vocation ». C'est pas ça que ça veut dire dans le contexte. Ici, c'est affermir, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre élection, votre appel que vous avez reçu de Dieu, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. On aimerait tout ça, avoir une foi qui ne bronche pas. Peu importe ce qui arrive, on est comme une grosse statue là, ancrée avec des gros rivets. Là. On ne bronche pas, peu importe ce qui arrive, le vent, il n'y a rien qui va faire bouger ça. C'est ça qu'il dit, si on pratique ça, puis on a ça en abondance dans nos vies, notre foi va être ferme, elle va arrêter de se promener à tout vent. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voyez-vous, justification, sanctification, avec effort, et va donner un résultat, non seulement dans l'affermissement de ta foi, mais dans la fin de ta foi. La fin, parce qu'il dit, ainsi, le royaume éternel de notre Seigneur vous sera pleinement accordé. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 et verset 3. Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous, de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés. Des fois, on se demande, bien, souvent on entend ça, j'aimerais ça faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, là, c'est simple, c'est qu'il veut que tu te sanctifies. C'est clair dans le verset. Là. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés et que vous vous absteniez de la fornication. C'est bizarre qu'il parle de sanctification et qu'il joint ça avec un péché de nature sexuelle. Proverbe, chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux ne fait que souhaiter et il n'a rien, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Autrement dit, ça ne se fera pas tout seul, ça. L'utilisation des moyens de grâce sont là, il faut les utiliser. Et on a la prière, on a l'assistance au culte, et on a plein de choses. C'est pas une leçon sur les moyens de grâce, mais quelque part, sont là. Et si on les utilise, on va être plus fort. Si on les utilise pas, on va être plus faible. Les puritains avaient l'habitude de dire « La foi vient en entendant, alors que l'assurance vient en faisant. » Oh, j'ai aimé ça. En anglais, c'est « Faith comes with hearing, but assurance comes with doing. » Alors, l'un, c'est « hearing », l'autre, c'est « doing ». Autrement dit, tu n'obtiendras pas l'assurance dans ta vie si tu ne fais pas ce que la Bible te commande de faire. Plus simple que ça. Troisième raison pour laquelle il identifie pourquoi il y a si peu de chrétiens qui atteignent le niveau de l'assurance de leur foi, une marche qui est chrétienne et une vie quotidienne inconsistante. L'inconsistance, c'est la faiblesse ou le manque de fermeté. L'inconsistance, ça détruit la paix de la conscience. Une marche vacillante, un manque de détermination à suivre une ligne directrice biblique et suivre aussi le chemin étroit et resserré. Une conduite mondaine, un manque d'affirmation dans l'évangélisation et une négligence de suivre de hauts standards de vie spirituelle et de sanctification n'amèneront que des gâchis dans le jardin de l'âme. Psaume 119, verset 128, c'est pourquoi j'estime droit tous les commandements et je hais toute voie de mensonge. Psaume 25, verset 14, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent il leur fera connaître son alliance. Je vous avais déjà expliqué que le secret de l'Éternel, le contexte, c'est les communications intimes avec le Seigneur sont pour ceux qui le craignent. Psaume 50, verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et celui qui règle sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. » Psaume 119, verset 165. « Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les renverser. » 1 Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » 1 Jean chapitre 3, versets 18 et 19. « Mes petits enfants, n'aimons pas de parole, ni de la langue, mais en action et en vérité. Car c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurerons nos cœurs devant lui. » 1 Jean chapitre 2, verset 3. « Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. » Acte 24, verset 16. « C'est pourquoi je travaille à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si un chrétien aspire à l'assurance de son salut, qu'il examine son cœur, sa conscience et sa vie de tous les jours, et qu'il examine aussi ses voies, et qu'il examine aussi la marche de son foyer. » Alors, j'ai mis quelques applications. En passant, je veux juste vous répéter, vous allez me trouver répétitif, mais ceux qui lisent l'anglais, je vous recommande très fortement de downloader ce document-là, le document long, là, parce que je ne vous en donne pas plus que... D'après moi, je ne vous donne pas plus que le corps de ce qu'il dit. Oui. C'est tellement bon. C'est vraiment... C'est extraordinaire. On ne voit pas ça souvent. Des fois, je vois que ça en fait sourire quelques-uns, mais c'est vrai. Alors, l'assurance de son salut, c'est un grand privilège. Comme on voit trois applications. L'assurance de son salut, c'est un grand privilège. N'est-ce pas que c'est quelque chose de grandiose à partir du moment qu'on arrive dans la vie où on n'a plus aucun doute qu'on n'est pas sauvé? On est sûr que peu importe ce qui arrive, un accident, la mort, on est sûr à 100% qu'on s'en va au ciel avec le Seigneur. C'est pas une belle grâce, ça, je me demande, mais c'est quoi une belle grâce? Tandis que celui qui est véritablement sauvé, puis qui n'a pas connu ça, cet effet-là, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas au ciel quand il va arriver au bout. Mais il va avoir mené une vie misérable sur cette terre alors qu'il aurait pu avoir une vie vraiment extrêmement beaucoup plus intéressante. Alors, ça apporte une très grande paix de l'âme. Poursuivons-la, l'assurance, authentiquement et constamment, car elle est précieuse. Deuxième point, implorons le Seigneur de nous sonder avec force et pour nous stimuler à chercher et à poursuivre sérieusement l'assurance dans notre salut. Des fois, je suis porté à marquer « sondons-nous » personnellement, mais la sonde qu'on fait de nos propres personnes, il ne faut pas faire la tonne souvent, là. Alors, quand on le demande au Seigneur, lui, il sonde sérieusement. Alors, si on implore authentiquement qu'il nous sonde, il va nous sonder. Alors, troisièmement, la troisième application, étudions davantage cette doctrine. Elle est profondément scripturaire et elle est hautement désirable. N'hésitons pas à identifier et à éliminer de nos vies les causes de sa faiblesse ou de son absence dans nos vies. Demandons des grâces correctives. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni pour son don ineffable, Jésus-Christ.
Amen.